Otaku, pour vous, la rubrique « Voici ». Salut les Ogiku, je suis ravie de vous retrouver pour la chronique d'août. Et oui, c'est l'été, les beaux jours s'installent et certains sont en vacances, donc le moment parfait pour se consacrer à nos activités préférées sans limite. Et justement, pour la rubrique « On se mate quoi ?», je vous suggère une sortie ciné pour le troisième volet de La planète des singes, Suprématie, réalisé par Rupert Wyatt qui sort le 2 août. Si comme moi vous êtes impatient, c'est tout simplement parce que les deux premiers volets étaient grandioses et que la bande-annonce de Suprématie semble annoncer du très très lourd. En même temps, ce reboot est inspiré d'une histoire vieille d'un peu plus de 50 ans. L'auteur français, Pierre Boulle, directement inspiré des recherches de Charles Darwin en y mêlant la découverte de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, publia son roman en 1963. C'est ainsi que La planète des singes conquit le cœur des geeks pour la première fois. Du roman, plusieurs adaptations cinématographiques ont suivi. La première, très célèbre, qui démocratisa les suites plutôt mal vues à l'époque, est une saga de 5 films. Ça commence en 1968 avec La planète des singes réalisée par Franklin Schaffner. En 1970, Le secret de la planète des singes par Ted Post. Les évadés de la planète des singes de Dan Taylor sort en 1971, puis La conquête de la planète des singes en 1972 et La bataille de la planète des singes en 1973, tous deux réalisés par John Lee Thompson. Cette folle aventure ne s'arrête pas là. En 1974, le roman de Pierre Boulle est adapté en série de 14 épisodes, produite par Stanley Hoog et Hubert Hichman. La même année, mais au pays du soleil levant, sort également une série qui plagie le roman, intitulée Saru no Gundan, qui donne l'armée des singes en français. Et dernière série, intitulée Return of the Planet of the Apes, donc retour sur la planète des singes, est diffusée en 1975, celle-ci étant totalement inédite en France. Après toutes ces adaptations, le thème de la planète des singes semble épuisé. Et il faudra attendre 2001 pour revenir à la charge dans le film du brillant, du magnifique et un peu étrange, c'est vrai, réalisateur Tim Burton. Et enfin, pour le côté écran, le reboot de Rupert Wyatt avec La planète des singes, les origines en 2011 et l'affrontement en 2014. D'un côté plus littéraire, La planète des singes est adaptée en BD de 3 tomes à partir de 2012 avec un scénario de Daryl Gregory et des dessins de Carlos Magno. En mai 2014, Titan Book publie Dawn of the Planet of the Apes, écrit par Greg Case, qui retrace les événements situés entre le film Les Origines et l'affrontement. Puis, en juillet 2014, les éditions Audio Libre proposent une version audio du roman de Pierre Boulle, lu par le comédien Bernard Gabay. La planète des singes, c'est aussi des tonnes de produits dérivés, et au passage, sachez qu'à la sortie du film de 1968, c'est l'un des premiers films à vendre des produits dérivés à grande échelle. Et on dira que les vieux trucs sont tout pourris. Mais, comme pour le singe à qui on n'apprend pas à faire la grimace, ce n'est pas à Pierre Boulle qu'on apprenait à écrire de la SF. Alors en attendant Suprématie, qui je le rappelle sort le 2 août, au cinéma, eh bien on dit merci Monsieur Boulle. Pour illustrer musicalement la rubrique « Une petite partie, ça te dit », j'ai choisi le générique d'une série que tu connais peut-être, Viking. Pourquoi ? Eh bien parce que le personnage principal, Ragnar Lodbrok, est un fin stratège dans l'art de la guerre et le jeu que je te propose est basé justement sur la stratégie et la gestion. Et oui, parce que c'est bien beau de killer tout le monde, parce qu'on a la meilleure arme, le réflexe bien affûté, ou encore la bonne fortune d'une balle qui ne touche pas sa cible, mais qui la tue quand même. Et là, on ne vise pas Call of, loin de là, parce que j'adore ce jeu. Mais ça arrive. Donc voilà, parce que certains sont meilleurs en stratégie que sur le terrain, je te propose une partie de Travian. Alors c'est un MMO qui passe par l'intermédiaire d'un navigateur web, donc zéro téléchargement à faire, et il est gratuit, bien qu'il soit possible de payer pour obtenir quelques avantages. Des avantages qui peuvent s'obtenir gratos si justement on est un fin stratège. L'ensemble des joueurs sont répartis sur plusieurs serveurs, tout se passe en temps réel, et pour gagner la partie, il faut terminer la construction d'un bâtiment nommé la Merveille. Donc pour créer un compte, rien de compliqué en soi. Pseudo, validation d'email, on connaît tous le truc. Mais avant de te lancer, sache que la stratégie commence dès la création de ce fameux compte, car avant de fonder un village sur les vastes terres de Travian, tu devras choisir l'un des trois peuples jouables, et ce choix ne se fait pas au pif, que nenni, car chacun d'eux a ses caractéristiques. Je te fais une petite présentation. D'abord, les Romains, experts en construction, par conséquent, ils sont les seuls à pouvoir upper deux bâtiments en même temps. Leur force militaire est plutôt équilibrée en offensive et en défensive, mais l'entraînement des troupes est long et coûteux. Leur bâtiment spécifique est l'abreuvoir, qui permet de réduire le temps de formation et la consommation des troupes. Ensuite, les Gaulois. Peuple plutôt axé def, leur cavalerie est la plus rapide du jeu, mais leurs catapultes sont chères et moins efficaces que celles des autres peuples. En revanche, leurs cachettes sont plus grandes et leur bâtiment spécifique, la fabrique de pièges, permet d'emprisonner quelques assaillants. Puis enfin, les Germains. Peuple le plus offensif du jeu, leurs troupes ne coûtent pas cher, elles se forment rapidement et elles peuvent voler plus de ressources que les autres. Par contre, elles se déplacent lentement et leur bâtiment spécifique, la brasserie, qui donne un bonus offensif aux troupes, rend aussi les catapultes moins précises. Voilà un peu pour les peuples. Donc une fois que tu connais leurs points forts et leurs points faibles et que tu sais quel genre de joueur tu es, tu peux choisir un peuple. Et là, tu arrives dans l'interface du jeu qui franchement a bien évolué depuis mes débuts en 2009. Elle est hyper fonctionnelle et en un coup d'œil, tu as un aperçu des trucs les plus importants et elle t'offre la vue imprenable sur ton magnifique village. Le premier d'une longue liste. Champs de céréales, forêts, montagnes et carrières de terre, c'est la partie farming pour récolter tes ressources afin de construire des bâtiments, des champs et de former tes troupes. Et ça, c'est dans le centre du village que ça se passe. Au début, tu as tout un tas d'emplacements vides, mais au fil des jours, ça se remplit vite. Et on n'est pas chez les Sims, hein. Une fois que les bâtiments sont posés, ils y restent. Donc après la visite de ton village, tu peux aller faire un tour sur la map pour faire un point sur tes voisins. Futurs alliés ou ennemis, l'avenir et ton mode de jeu te le dira, mais en tout cas, c'est un point important à prendre en compte. Travian est massivement multijoueur. Et pour survivre, tu seras obligé d'intégrer une alliance au risque de te faire pulvériser par celle-ci. Là aussi, c'est pas à choisir au pif. Il y a les alliances très accessibles qui sont souvent gérées par des noobs, puis d'autres plus expérimentées qui te demanderont carrément un CV travianesque. Peu importe, Travian se joue en alliance, donc choisis celle où tu seras le mieux sans oublier le côté stratégique bien sûr. Parce que si tu es un joueur offensif, il te faudra des défensifs pour protéger ton royaume. Et en échange, bien sûr, tu devras détruire les assaillants de ceux qui te protègent. J'entends de là ta question. Mais pourquoi ne pas faire des troupes offensives et défensives ? Alors c'est possible, mais au début, ou sur un premier serveur pour te faire la main. Mais si tu restes mix, tu n'auras au bout du compte qu'une moitié d'armée def et une moitié d'armée off contre des joueurs qui se seront spécialisés. C'est pour cette raison que le jeu d'alliance est crucial pour rester dans la course. Puis, pour participer à la construction de la merveille, il faut être dans une alliance. Bon, ces quelques points éclairés, il va falloir passer à l'action. Côté gameplay, tu peux donc attaquer des joueurs pour détruire leur village ou les piller pour voler leurs ressources. Tu ne verras pas les troupes s'affronter réellement, mais tu recevras un rapport de combat qui t'expliquera si tu as gagné et ce que tu as volé ou pas. Mais j'ai bien dit tout à l'heure que Travian est en temps réel. Donc, que tes troupes mettent 10 minutes ou 1 heure pour aller faire coucou à ton voisinou, c'est autant de temps pour lui de bien t'accueillir, soit en dépensant ou en déplaçant ses ressources, soit en installant un mur défensif, où il aura invité tous ses potes pour la petite fête, ou encore en préparant une contre-offensive parce qu'il n'apprécie pas les visites imprévues. Du coup, par précaution, tu peux espionner un village et ainsi savoir si tu peux y aller tranquillement ou s'il vaut mieux taper un petit à côté. Ouais, je t'entends dire que taper les plus petits, c'est pas très fair-play, puis ça rapporte moins qu'un gros joueur qui déborde de ressources. Alors là, à toi de réfléchir à comment déglinguer un joueur aussi fort, voire plus fort que toi. Tu peux balancer de fausses attaques dans son royaume pour le faire stresser, puis balancer une vraie offensive au milieu des fakes. Ou bien, tu peux encore demander de l'aide à ton alliance pour l'attaquer à plusieurs. Ou encore, user de la diplomatie auprès de lui ou auprès des joueurs qui le soutiennent. Tu peux feinter une entente, puis au bon moment le dégommer. Oh, c'est moche, penses-tu? Mais c'est toi ou lui? Bref, une fois que tu as réussi à éliminer toutes les troupes de ton adversaire, eh bien, il faut te demander ce qui va t'advenir de son village. Tu peux t'en servir comme frigo, c'est-à-dire que tu vas aller piller ses ressources sans relâche pour alimenter ton village. Ou alors, tu peux aussi conquérir son village grâce à des chefs qui vont persuader les villageois de se rallier à toi. Si ça passe, tu en seras le nouveau et heureux propriétaire. Enfin, à toi de voir comment dominer une zone et les joueurs qui peuplent les alentours au risque d'être déplumés. Travian, ce n'est pas que les armes, c'est aussi la tête. Bon, je parle, mais là tu te rappelles que j'ai parlé de merveilles plusieurs fois et que je ne me suis pas étalée dessus. Justement, j'y viens. La merveille, seul bâtiment qui se up jusqu'au niveau 100. Ça représente des heures de construction et des milliers de ressources. Vous serez une poignée à tenter de la monter, une poignée parmi lesquelles un nouveau peuple entre dans la course, les Natars. Des ennemis comme les autres, sauf qu'ils sont joués par l'ordi, donc pas la peine d'essayer de t'en faire des potes. Durant la course, tout le monde se fout sur la tronche sans relâche. Et crois-moi, tu prends un gros coup de pression lorsque tu vois sur ton écran plus de 200 attaques qui te tombent dessus tout en même temps ou presque. Et oui, parce que là, ce ne sont plus seulement que des alliances qui se battent, mais des coalitions énormes. Et ils ne viennent pas pour un pique-nique, hein, bien sûr. Ils veulent ralentir la construction des merveilles ennemies, voire les détruire. Et là, c'est la panique. Ton chef d'alliance hurle de défendre et de nourrir sa précieuse merveille. Le chef offensif ordonne de taper Philippe. Et le chef défensif somme de défendre Brigitte. Et toi, tu fais ce que tu peux au milieu de ce chaos. Cette dernière partie de jeu est intense. Mais franchement, Ogiku, c'est un pur moment à vivre au moins une fois dans ta vie de gamer. Alors, joue à Travian. Et on finit cette chronique par l'agenda des sorties. Donc comme je le disais, c'est l'été. Et en été, malheureusement, des conventions, il y en a peu ou pas. Alors sachez juste qu'à l'espace culturel de Saintes a lieu un concours Mario Kart sur Switch le 29 juillet. Premier prix, un bon d'achat de 150 euros. Deuxième prix, 100 euros. Et troisième prix, 50 euros. Et il y aura également des goodies pour tous les participants. Parlons maintenant des sorties jeux vidéo. Sur Switch, tout d'abord, le 29 août, le célèbre plombier en salopette bleue s'invite chez les lapins d'Ubisoft pour le titre Mario et les lapins crétins Kingdom Battle. Le jeu a été présenté le 12 juin à l'E3 et a fait son petit effet. Alors on ne sait pas encore grand chose sur son contenu, mais il sera divisé en une partie exploration et une partie combat tactique en tour par tour. Vous pourrez y incarner 4 héros classiques de l'univers du plombier, Mario, Luigi, Peach et Yoshi, ainsi que leurs homologues en version lapin. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de Life is Strange où j'avais incarné le personnage de Max, une jeune lycéenne en photographie qui a le pouvoir de remonter dans le temps et qui enquête avec sa meilleure amie Chloé sur la disparition de Rachel. Ce jeu a fait un carton, des tonnes de fans ont demandé une suite et voici deux bonnes nouvelles. Donut Entertainment travaille actuellement sur Life is Strange 2. Mais pour nous faire patienter jusqu'à sa sortie, nous aurons le 31 août la joie de découvrir Life is Strange Before the Storm, développé par Deck 9 Games. L'intrigue se déroule 3 ans avant le retour de Max à Acadia Bay et donc nous incarnerons le rôle de la rebelle Chloé en compagnie de Rachel. Alors pour ceux qui ont joué Life is Strange, je vous avoue que dans ce préquel j'attends quand même quelques réponses sur la nature des sentiments de Chloé envers Rachel. Histoire à suivre. Bref, sachez que Before the Storm n'est pas axé sur le contrôle du temps, mais il y aura tout de même des phénomènes étranges durant la progression. La saison, disponible sur PC, PS4 et One, contiendra 3 épisodes pour 17 euros. Mais vous pourrez aussi opter pour l'édition de luxe à 25 euros, qui contiendra un épisode bonus intitulé Farewell, dans lequel Max sera jouable, ainsi que 3 tenues alternatives pour Chloé, et vous aurez la possibilité de créer une playlist avec les titres du jeu. Je termine avec Red Hot, qui sortira le 31 août aussi sur PC, PS4, One et Switch. Il s'agit d'un jeu de course futuriste où vous piloterez des vaisseaux spatiaux hyper rapides sur des circuits très diversifiés qui donnent la possibilité de faire des sauts, des loopings et bien d'autres cascades. Un petit jeu pour défier vos potes au milieu de bolides volants, dans la bonne humeur bien sûr. Et je finis avec les sorties manga. Je vous ai sélectionné 3 titres qui paraîtront tous le 23 août. 2 shonen du genre aventure et fantastique. Le premier, Meminis Lost and Found de Shizuka Makoto aux éditions Doki Doki. L'histoire suit Rei, un lycéen qui n'a plus le moindre souvenir de sa jeune enfance. Sa vie est bouleversée le jour où il rencontre une fille mystérieuse capable de manipuler les souvenirs et qui a pour mission de le protéger d'une attaque imminente. En effet, il est la cible de personnes dotées de pouvoirs qui défient l'entendement. Mais pourquoi lui? Et quel secret cacherait? Eh bien, vous le découvrirez en lisant Mimesis Lost and Found. Le deuxième que je vous propose, Les Rôdeurs de la Nuit, de Gotoge Koyoharu, est une série atypique entre contes et histoires d'horreur aux éditions Panini. Ça se passe au Japon au début du XXe siècle. Un petit marchand de charbon nommé Tanjiro mène une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où, après une courte absence, il retrouve son village et sa famille massacrés par un ogre. La seule survivante est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact de la bête, la fillette se métamorphose en monstre. Tanjiro décide de partir en quête de vérité afin de renverser le processus et aussi de venger sa famille. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence. Suivez-les dans Les Rôdeurs de la Nuit. Et pour finir, un manga intitulé Hello the Past de Zao Golo chez Casterman. du genre tranche de vie et action, Hello the Past raconte l'histoire de Yu Zuzu, une fillette de 6 ans qui rentre à l'école. N'ayant vécu qu'avec sa mère divorcée, elle est très solitaire. Heureusement, elle va faire la connaissance de Benz, un garçon du même âge, battu par son père adoptif et qui pleure tout le temps. Il devient très vite un fervent admirateur de la petite Yu. Mais chez la fillette, les difficultés financières s'accumulent et Yu et sa maman vont s'installer chez la grand-mère. La petite doit partager sa chambre avec deux cousines plus âgées qu'elle. Jalousie, premier conflit et première amitié surtout, c'est une nouvelle vie qui commence pour Yu. Découvrez-la dans Hello the Past. Et voilà mes petits ogikou, cette chronique est terminée. On se retrouve très vite pour de nouvelles news et bien sûr on se quitte en musique avec Handlebars de Flowbot. À bientôt. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. I can ride my bike with no handlebars, no handlebars, no handlebars. Look at me, hands in the air like it's good to be alive. And I'm a famous rapper even when the pads are all crooked. I can show you how to do-si-do, I can show you how to scratch a record. I can take apart the remote control, and I can almost put it back together. I can tie a knot in a cherry stem, I can tell you about Leif Erikson. I know all the words to De Colores, and I'm proud to be an American. Me and my friends are platypus, me and my friend made a comic book. And guess how long it took, I can do anything that I want. Cause look, I can keep rhythm with no metronome, no metronome, no metronome. And I can see your face on the telephone, on the telephone, on the telephone. Look at me, just called to say that it's good to be alive. In such a small world, I'm all curled up with a book to read. I can make money, open up a thrift store, I can make a living off a magazine. I can design an engine, 64 miles to a gallon of gasoline. I can make new antibiotics, I can make computers survive aquatic conditions. I know how to run a business, and I can make you wanna buy a product. Movers, shakers, and producers, me and my friends understand the future. I see the strings that control the system, I can do anything with no resistance. Cause I can lead a nation with a microphone, with a microphone, with a microphone. And I can split the atom of a molecule, of a molecule, of a molecule. My reach is global, my tower secure. My cause is noble, my power is pure. I can hand out a million vaccinations, or let them all die in exasperation. Have them all healed from the lacerations, have them all killed by assassination. I can make anybody go to prison just because I don't like them. And I can do anything with no permission, I have it all under my command. Because I can guide a missile by satellite, by satellite, by satellite. And I can hit a target through a telescope.